souvent quand certaines personnes nous voient et ont affaire à nous, elles sont souvent très étonnées de savoir tout ce que l'on fait, quoi. Pour eux, c'est on prend mamie à un point A, on l'emmène passer sa radio, on s'en fiche, allez hop, monte sur le brancard, roule ma poule et puis c'est parti, quoi. Et c'est pas du tout le cas.
Oui, les ambulances, bonjour.
On arrive, on est juste sur le parking, on arrive, on déposait.
Voilà, à tout de suite.
Ambulance J'écoute, par Sophie Bardin.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va? Vous avez mal quelque part?
Non.
Vous êtes bien installé comme ça? Si vous voulez que je vous lève encore un peu le dossier, je peux le faire.
Très bon, bien.
Je vous explique pourquoi vous emmenez les lunettes, comme ça vous allez voir les belles infirmières.
Ah oui, c'est pour le nez, ça.
Ouais, c'est pour l'oxygène.
Ah, l'oxygène.
Comme ça, vous allez voir, comme a dit le docteur, vous allez mieux respirer.
Hein? Oui.
Quand on rentre dans le milieu médical, il y a toujours l'angoisse. Hein? Il y a encore certaines pathologies qui sont encore reliées à la mort, où les gens ont peur de mourir. Hein? Donc nous, c'est vrai qu'on n'est pas, on n'a rien de médical. On n'a pas à conseiller d'aller plutôt voir un tel ou tel médecin, c'est strictement interdit. Hein. Ça, c'est le patient qui prend entièrement sa décision. On n'est pas là pour porter un jugement. Par contre, on est là pour rassurer les patients.
Pour rentrer dans le problème de la personne, il faut lui aider au maximum de ce que tu peux faire. C'est ton rôle. Moi, je le dis, c'est comme ça.
C'est prendre en charge la personne, c'est qu'elle soit le mieux installée possible, essayer de la rassurer, parce que souvent les personnes d'un certain âge ne savent pas ce qui va leur arriver. Donc leur expliquer, hein, savoir qu'est-ce qu'un scanner, qu'est-ce qu'un IRM. Souvent, si nous, en tant qu'ambulancier, on n'est pas capable de leur expliquer, souvent le personnel soignant, quand ils arrivent, ils sont débordés. Allez madame, on va passer votre scanner. Donc la personne, elle est toujours très très angoissée. Donc le rôle, c'est aussi de rassurer le plus possible la patiente. Le métier d'ambulancier à l'heure actuelle a besoin et aurait besoin d'être mieux reconnu. À savoir que nous, en tant qu'ambulanciers, on ne fait pas partie du corps médical. Sur notre convention collective, nous sommes des transporteurs routiers. On a une formation, on reçoit une formation médicale. Alors, comme nous, ma formation en tant que diplômé d'état d'ambulancier, le DEA, c'est, on va dire, un peu spécifique dans le côté médical, hein, sur l'urgence et comment prendre en charge les différentes pathologies. Mais au niveau du personnel soignant, on n'est pas reconnu. On est comme des conducteurs de personnes. Dans certains services, on est là, il y a les brancardiers qui vont vous ramener chez vous. Ils ne s'occupent pas de savoir si on est capable. Vous la ramenez, on ne sait pas ce qu'elle a, on ne sait pas comment prendre en charge les différentes pathologies. C'est assez problématique.
On change de collègue tous les jours. Déjà, c'est pour pas avoir une trop grande habitude, mais en fait, on travaille tous pareil. Donc, c'est vrai qu'on arrive à discuter entre nous tout en travaillant. On va pas se dire, tiens, qu'est-ce qu'il fait lui maintenant? Qu'est-ce que lui va faire? C'est un automatisme qu'on reçoit, à part avec les nouveaux qui démarrent, le temps qu'ils prennent le rythme, comme on appelle ça de chez nous, hein, parce que c'est ce rythme-là.
Alors, il y a des jours avec et des jours sans, quoi. Hein. Mais quand un collègue, on remarque qu'il n'est pas trop en forme, on va lui dire, stop, attends, écoute, tu restes de côté, je m'en occupe, quoi.
Tu auras des jours arrive. Où tu auras envie de parler, alors c'est toi qui iras chez le patient derrière. Tu as des jours où tu iras rouler parce que voilà. Voilà, donc voilà aux urgences. Hop. Quand on a déposé la personne, après chaque personne, on est obligé de désinfecter le brancard. Donc on a une petite pipette qu'on remplit au bureau directement le matin et ce produit tient toute la journée. Ça détruit toutes les bactéries, quoi.
Voilà, donc on a un bac qu'on garde à part. On met le gant, on met tout avec. On utilise des gants parce que c'est corrosif au bout d'un moment. Si vous l'utilisez tout le temps, c'est pas que ça mange la peau, mais ça laisse quand même des petites crevasses. C'est vraiment actif quand même. Et après, normalement, après chaque personne, on a des petits bidons. Ben, le manugel, ça s'appelle, ce qui est utilisé partout. Et ça, un petit coup sur les mains, désinfecté, et puis voilà. Et on repart sur la prochaine. C'est parti.
Quand moi j'ai commencé dans le métier, alors je commençais, j'avais 21 ans, donc on me parlait de cancer, alors j'avais les gens, j'ai dit « Ah, vous avez quoi? Comment vous avez décelé ça ?» et tout. Alors on me disait « Ouais, vous avez un ganglion qui apparaît là. » Alors je rentrais le soir, je mettais sous la glace, je touchais « Oh putain, j'ai un ganglion quoi !» Donc je revoyais la personne, j'ai dit « Ah, mais vous avez fait quoi ? Tout, quel examen ?» Je me notais tout, quoi, parce que j'étais novice, hein, quel traitement et tout. Et j'allais, alors pour vous dire, quoi, j'allais voir mon médecin, je lui disais « Ben voilà, j'ai un ganglion, donc je veux tel examen, donc je veux un IRM, je veux une scintigraphie, je veux un PET scan. » Et on va tout de suite attaquer. Elle me dit « Ah, stop, là, on va arrêter, quoi. Hein. » Et puis, il y a 30 ans, c'était malheureusement la découverte du sida, quoi. Hein. Donc les premiers cas de personnes qu'on transportait avec le sida, je vous explique pas, c'était « et je te mets 3 paires de gants, et je te mets le masque », enfin c'était, on n'était pas informés malheureusement. Et alors je peux vous dire qu'à un moment donné, je courais, alors ça n'existait pas les centres de dépistage anonymes hein, à cette époque-là, mais je courais voir mon médecin, bien une fois par mois, en lui disant « je veux alors le HIV, je veux que vous me fassiez tel truc, parce que j'ai conduit telle et telle personne ». Alors il m'a dit, mon docteur m'a dit « il y a deux solutions, soit tu laisses tout ça de côté et tu continues dans ton métier et tu vis, ou soit tu arrêtes, parce que sinon tu ne vas plus t'en sortir ».
Si vous sortez, c'est que tout va bien.
Donc là, c'est des retours à domicile simples. Hein. Des urgences, des gens qui ont passé une nuit ou deux, trois jours. Hein. Après, on fait aussi des transferts vers un autre hôpital. Des gens qui ont une pathologie particulière, qui nécessitent une hospitalisation et qui n'ont pas de place dans le même hôpital ou alors que ce n'est pas la spécialité de l'hôpital. Ce monsieur, lui, il a de la chance, mais il rentre chez lui. Donc on a ce genre de retour et puis on a des personnes aussi qu'on appelle ça en série. C'est des gens qu'on emmène trois fois par semaine pour les dialyses par exemple. Mais alors là on se permet plein de choses, on plaisante, on fait des blagues, même un peu des trucs osés. C'est quand même des gens avec qui on va garder un super bon contact et pour les mettre à l'aise. Et il ne faut pas que ça soit une plaie hein, de partir avec nous quoi. Déjà que tu vas pour ton problème, plus en plus si tu n'es pas content du personnel qui... Hein, voilà. Moi maintenant ça fait 15 ans que je fais ce métier, il y a des dialyses qu'on a... Il y a une dialyse par exemple que je l'ai depuis 15 ans cette dame. Alors on va connaître leur vie, oh mon petit-fils a fait ça, ma fille a fait ça. Donc on va discuter, ah bon, et même en les revoyant deux jours après, alors ça s'est passé comment avec votre fille, vous avez fait ci, ça, on discute bien. Alors on a les gens qui sont agressifs, donc là... C'est autre chose. Oui, monsieur, bien sûr, monsieur. On va essayer de garder au maximum notre calme. Essayer de lui faire comprendre que, par exemple, pour un retard, ça nous arrive d'être en retard. Il suffit d'être bloqué pour une urgence ou n'importe quoi. Alors, il y en a, oui, mais je comprends, il n'y a pas de souci, ou ça se passe très bien. Et tu en as d'autres, oui, c'est inadmissible, hein, excusez-nous, monsieur. Alors, il suffit que vous êtes aux heures de pointe, parce que, comme nous à Strasbourg, ben voilà, hein, ça commence. Ça va ?
Ouais.
Ben, j'ai rien fait. Ah, il y avait peut-être quelque chose par terre, j'ai pas vu. Et c'est une horreur, hein, on peut perdre un temps monstre. Hein. Déjà, ça commence vers 14h. Et alors là, c'est parti jusqu'à 18h où on n'a pas moyen de circuler. Alors, bien sûr, on est des professionnels de la route, comme on dit. Donc, du coup, tu prends tous les chemins de traverse, comme on appelle ça. Ou alors, on dit toujours, hein, tiens, je passe par derrière. Enfin, quand on connaît tellement de raccourcis qu'on essaye au maximum d'optimiser pour que, justement, la personne soit à l'heure au rendez-vous et que nous, on puisse assurer la prochaine personne, quoi, pour être vraiment à l'heure. C'est à ma gauche, hein, c'est
ouais.
Ça
ouais.
Voilà.
C'est la première entrée. Hein.
Oui, j'ai vu.
Vous habitez à quel étage, monsieur ? Est-ce que vous pouvez monter les marches ?
Oui,
là, ça va.
Oui.
Bah écoutez, c'est parfait.
Là, il faut se protéger nous-mêmes aussi. Hein. Ça, c'est super important. Le fait de porter correctement, pour éviter nous les problèmes de dos. On a des collègues qui sont partis avec hernie discale et tout. Hein. Et le métier, en général, les gens, ils ne le tiennent pas très très longtemps parce qu'il est quand même hyper physique. Quoi. On peut avoir des gens qui marchent comme monsieur, là, c'est pas très souvent. L'ambulance, elle est vraiment faite pour porter. Quoi, hein. En général, les gens, c'est ça. Hein. C'est vraiment l'aide totale à la personne. Quoi.
Alors, en général, un auxiliaire ambulancier, par mois, va se faire, on va dire, allez, 1 400 euros net. on va dire un DE chez nous arrive à 1006 quoi.
Alors c'est sûr qu'il faut avoir un chiffre à la fin de la journée. Hein, on est une entreprise, comme dit, on n'est pas la Croix-Rouge. Hein, donc nous aussi, à la fin de la journée, on ramène 3 courses. Notre boss, il va rien dire la première journée, quoi. La deuxième journée, il va rien dire. La troisième, il nous convoque et nous dit, oh les cocos là, hein, ça suffit plus quoi. Hein.
Il faudrait à peu près qu'on fasse par jour minimum 8 personnes pour que l'entreprise vit bien. C'est ce qu'il nous disait. Mais bon, on s'arrête jamais à 8. Hein, c'est pas quand t'as fait 8, tu rentres. Hein, ouais. Voilà.
Quand je vois notre métier qui est actuellement comparé il y a 20 ans, 25 ans en arrière, mais où est-ce qu'on va revivre ça? Non, c'est bien malheureux. C'était formidable pour la bonne et simple raison, on avait donc le respect des collègues. Ça veut dire que quand on transportait un patient, si on voyait qu'il avait la carte, on le laissait. On n'allait pas lui piquer. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, c'est terminé. Vous êtes en difficulté pour descendre votre patient. Personne, mais alors, je peux vous dire, personne ne viendra vous aider. On voit apparaître ce qu'on appelle les travailleurs non salariés. La société va dire, eh ben, écoutez, voilà, je vais ubériser mon entreprise. Il prend un de ses agréments et va mettre deux personnes, mais des travailleurs non salariés. Et va leur dire, voilà, vous me devez tant par mois. Tout ce qui est au-dessus, c'est pour vous. Après, ils ne sont pas tenus au temps de travail, ils ne sont pas tenus aux vacances, ils ne sont pas tenus à tout ça, quoi. On se retrouve avec des gens, des jeunes souvent, qui vont rouler gyrophare, hein, qui vont foncer partout pour faire le plus de courses.
Parce que c'est pour leur portefeuille.
C'est pour leur portefeuille, donc c'est ça. Et ça, depuis on va dire un peu moins de 10 ans, on retrouve plus en plus en France l'ubérisation de notre profession. Mais vous avez ces microstructures, comme on les appelle, c'est des personnes, c'est du chiffre, du chiffre, du chiffre, du chiffre. Peu importe, c'est l'essentiel d'un point A à un point B. Donc pour avoir le plus de courses, on va acheter des petits pains aux infirmières ou on va fournir un soin du visage à l'infirmière. Voilà, je te donne un soin du visage, tu m'apportes tant de courses. Donc ça commence et c'est très ressenti. On a venu nous des services où on travaillait régulièrement et on nous demande, ouais, mais vous ne ramenez jamais de petits pains. Ouais, voilà. J'ai une amie qui travaille, qui est infirmière, qui me dit, écoute, on fait une journée à Europa Park. Alors je dis, ouais, mais c'est quand même très cher. Elle me dit, non, t'inquiète pas, j'ai des ambulanciers qui sont venus m'apporter des tickets pour Europa Park. Moi, j'étais très content. Moi, ambulancier de l'Étoile, j'utilise les tickets Europa Park. C'était grandiose, quoi. Mais ça fonctionne comme ça. Après, vous vous mettez à la place de l'infirmière, elle va se dire, écoute, je fais mes soins pour mes patients correctement. J'ai un ambulancier qui me propose de me donner des soins pour mon visage ou aller à Europa Park. Ou voire même plus, il y a des télés, il y a voire même des séjours dans certains endroits, dans certains services, quoi, pour les séances de dialyse et tout ça, quoi. Donc je vais appeler cette société, je vais en profiter pour moi et ma famille, hein, ni vu ni connu. Et puis voilà, ils vont travailler pendant un an comme ça. Et au bout d'un an, une fois qu'ils se sont fait un max de fric, eh ben, on ne paye pas les cotisations, mais ça, c'est pas grave, quoi. On ferme la société. Et puis, on recommence avec un autre nom.
C'est parti. Je me dirige où?
On va aller boire un café.
Ça y est, on a enfin la pause. C'est magnifique. C'est un beau métier aussi, hein. Faut dire que c'est très prenant. On n'a pas d'horaire de début ni d'horaire de fin. En fait, c'est la veille au soir, la secrétaire elle va nous appeler. Elle va nous dire, ben voilà, demain tu commences à 8h. Donc tu sais que tu es sur une amplitude de 9h. Tu sais que tu vas finir à 17h. Mais si ton patient n'est pas sorti ou si tu es coincé sur la route, le 17h, il reste vraiment, c'est approximatif. Ça peut être plus comme ça peut être moins. Hein. Si le patron te dit, écoute, voilà, j'ai besoin juste encore d'une équipe, vous rentrez. Donc nous on rentre et puis voilà.
Dans le métier d'ambulancier, il faut toujours rester humble. On n'est pas des infirmiers, on est encore moins des docteurs. Quand tu emploies les termes médicaux, il faut vraiment utiliser les bons termes. Tu ne peux pas utiliser des mots pour faire joli. En disant j'ai un petit peu de culture dans le milieu médical et je la balance, quoi. Les médecins du SAMU vont préférer avoir un ambulancier en face de lui qui va employer ses propres mots et être sûr de ce qu'il emploie qu'un ambulancier qui va employer des termes médicaux et qui va comprendre que la moitié. Donc il faut, comme je dis à chaque fois, bien, un ambulancier doit bien rester à sa place. Moi, je vois avec ma collègue, quand on fait des interventions via le SAMU, il y a des fois des choses que je ne vais pas voir, qu'elle va voir. C'est vraiment le travail à deux. Donc voilà, là on a le vestiaire. Vestiaire pour les filles. Ils ont pris le plus petit, c'est pas parce qu'on est macho, mais parce qu'ils sont qu'à deux. Hein. Et là, il y a le vestiaire des garçons. Hein. On peut se changer et tout ça.
Il y a ceux qui veulent, qui n'ont pas assez de place. Ils ont leur nom sur les casiers, tu vois. Et ils mettent leurs pantalons de rechange déjà prêts pour le lendemain. Et là, on a le sac, donc le linge sale. Là, la personne qui lave le linge vient ici, elle a les clés. Elle prend ce sac et elle remet tout de suite le propre sur la table. Après, chacun a son nom dedans. Et ils trient et puis ils choisissent, enfin ils cherchent leur tenue, tu vois.
Tu relèves fermer ça là. Donc là, on a tous nos véhicules. C'est tous le même type de véhicule. Le matériel est positionné de la même façon, toujours au même endroit.
Vu que mon papa était ambulancier, un jour il y avait une personne qui manquait. Il m'a dit, allez, tu vas faire ton brevet de secourisme et tu pourras réunir des panneaux. Ce que j'ai fait, et les choses ont fait que j'ai démissionné de l'endroit où j'étais. Puis après, je suis restée complètement à l'intérieur, quoi, dans la société. Moi, perso, j'aurais jamais pensé le faire, parce que j'étais serveuse en discothèque, donc voilà. Et à un moment, tu dis, bon, avec l'âge, il faut commencer à changer de métier, quoi. Et du coup, ben, j'ai commencé comme ça, et puis voilà. Si quelqu'un s'occupe bien de soi, de son dos, de sa façon de travailler, de son alimentation et tout ça. Oui, fais du sport à côté, tout ça, oui, tu peux le faire toute ta vie. Mais faut vraiment une bonne hygiène de vie, parce que c'est, comme dit, c'est pas un métier facile, quoi. Il y a beaucoup d'heures, mais après, ouais, faut... ça dépend de la structure, s'il faut beaucoup porter ou pas, ou suivant ce qu'il y a à faire. Il y a des sociétés en campagne qui, eux, font beaucoup de routes. Donc je pense que là, tu peux tenir quand même beaucoup plus longtemps qu'une société en ville où tu as beaucoup de portage, d'escaliers, de bâtiments. Ouais, c'est différent. Moi, j'étais une fois en maladie un mois pour ma hanche. Je me suis retrouvée avec 695 € de salaire. Donc, tu ne peux pas te permettre d'être malade non plus. Donc, il faut vraiment que tu fasses attention à tout, quoi.
C'est vrai que j'ai la chance de faire très, très attention à mon dos. Je fais très attention. J'ai une très grande hygiène, une bonne hygiène de vie en faisant du sport et tout ça. Pour durer, il faut qu'il y ait un soutien de la famille. Je sais que j'ai eu une épouse qui a été présente pour nos enfants. C'est-à-dire que moi, malheureusement, de par ce métier-là, je n'ai pas vu ma fille grandir. Parce que ben, quand elle est née, je partais le matin à 6h, je rentrais le soir, il était 20h, 20h30, voire même plus. Donc quand je partais, elle dormait, elle dormait. Donc c'est vrai qu'il faut que l'épouse soit ou l'époux soit très tolérant sur les heures. Mon épouse ou mes enfants, quand ils étaient plus jeunes, n'ont jamais su qui je transportais, quelle pathologie, j'en parlais pas. Quand ils voulaient, j'y restais évasif pour savoir, pour leur expliquer. Mais sinon, je rentrais jamais dans les détails. Donc c'est pour ça qu'on apprend très vite, très vite. Et c'est pas un manque de respect des gens qu'on transporte. Pas du tout. Mais on se préserve. Quand c'est des enfants, c'est plus dur. On a eu chez nous des enfants qu'on a conduits et qui malheureusement sont décédés du cancer. Là, ça fait mal.
Là, tu peux faire ce que tu veux, tu n'arrives pas à mettre de là, côté.
Même avec l'ancienneté que j'ai, j'essaye de faire un copier-coller sur ma fille ou sur mon fils. Je me dis, merde, putain, quand on voit la force, le courage des parents, comment moi je réagirais? Et on apprend, on apprend. Si on ne se sent pas à l'aise, si on n'aime pas, si on a un coup de mou, soit on prend des vacances, on réfléchit, ou soit on change de métier. Mais c'est vrai qu'on peut, et là je maintiens qu'on peut en faire son métier jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite. Moi j'inspire hein, ça, hein. Honnêtement j'inspire. Hein.
C'était Ambulance J'écoute, avec Sandra Wolzen-Logel et Philippe Lelièvre, Centre universitaire d'enseignement du journalisme. Encadrement Nicole Gauthier, Marie Guérin et Christophe Deleu. Mixage Jean-Christophe Galen. Un podcast de Sophie Bardin.